Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Florence Cohen.
Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'information. De l'eau dans le gaz entre Emmanuel Macron et la presse, nouvel épisode. Le chef de l'État porte plainte pour harcèlement contre un photographe qui voulait prendre des clichés sur le lieu des vacances présidentielles à Marseille. Le reporter s'est introduit dans la propriété privée, affirme l'Élysée. Faux, répond le journaliste qui raconte sa garde à vue de 6 heures, la fouille de son matériel et ce qu'il qualifie de tentative d'intimidation de la police et du pouvoir contre lui et certains de ses confrères. On en parle dès le début du journal, présenté par Charlotte Arrigoni. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Florence et bonsoir à tous.
Les autres titres.
La piste terroriste totalement écartée après le drame de 7 sorts en Seine-et-Marne. L'automobiliste qui a foncé dans la pizzeria était sous l'emprise de stupéfiants et de nombreux médicaments. Une adolescente de 13 ans est décédée. Une femme de 44 ans est entre la vie et la mort. Après-midi agité à Bure, dans la Meuse, le rassemblement des antinucléaires opposés au projet d'enfouissement de déchets nucléaires a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Les universités américaines dominent encore une fois le célèbre classement de Shanghai. Côté français, ce n'est pas brillant. Nous ne sommes qu'à la 6e place.
Et à 18h20, l'invité de RTL Soir sera Marc Mézard, directeur de l'école normale SUP, 69e au classement et 3e établissement français du top 100.
La Bourse de Paris, elle clôture en hausse de 0,36% à 5140 points. Les courses à Deauville, il fallait jouer le 4, le 6, le 2, le 5... Hélas. Et puis un mot de vos conditions de circulation ce 15 août. Ça roule plutôt bien ce soir, Charles Dodon.
Oui, dans l'ensemble, quelques difficultés toutefois dans le sud-ouest en provenance de l'Espagne. Ça freine au début de la 63 à hauteur de Guétary. C'est ralenti également au nord de Bordeaux. Les premiers kilomètres de la 10 se font au ralenti dans l'Hérault. On a toujours les conséquences d'un incendie survenu cet après-midi au nord de l'Odève, à proximité de la 75. Des perturbations demeurent en direction de Millau et de Clermont-Ferrand. Enfin, quelques difficultés au sud de l'Île-de-France, consécutives à des accidents en direction de Paris. Bouchons avant et après Saint-Arnoult-sur-la-Dix. Et puis plus à l'est, ça coince également sur la 6 avant Évry.
Merci Charles Dodon et on vous tient informé tout au long de cette session d'information dès que nécessaire sur vos conditions de circulation. Avant 18h30, à la télé ce soir avec Laurent Marsic et un petit air de Rio. Après 18h30, drôle de rencontre avec le journaliste André Bercoff et laissez-vous tenter de l'été. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Allez, encore quelques orages cette nuit et demain ce sera mieux.
Oui, c'est encore très instable ce soir entre les Pyrénées et les frontières du Nord avec de fortes averses, en particulier en ce moment sur le sud de l'Île-de-France, avec une activité orageuse qui sera encore très marquée toute la nuit justement entre la région parisienne et le nord-est du pays. Ensuite, cette zone orageuse va finir de s'évacuer par les frontières de l'Est et demain, on va retrouver des conditions météo plus calmes. Localement, demain matin, nous aurons un temps assez gris, brumeux, avec parfois des nuages bas. Encore quelques averses possibles tout au long de la journée entre le massif central et le nord-est. Un temps très nuageux avec un petit peu de bruine sur le sud-ouest, mais partout ailleurs. Retour du soleil dans l'après-midi avant une nouvelle perturbation. Elle arrivera plutôt en fin de journée par la pointe bretonne. Les températures 9 à 22 degrés demain matin et 20 à 33 dans l'après-midi. 20 à Brest, 24 à Biarritz, 25 à Lille, 26 à Paris et jusqu'à 33 degrés à Nîmes.
Merci Patricia Charbonnier. On se retrouve tout à l'heure, juste avant 18h30.
RTL Soir.
C'est une étape importante pour chaque nouveau président de la République. Les 100 premiers jours à l'Élysée, Emmanuel Macron vient de franchir ce cap.
Alors qu'il fait face à des sondages peu favorables, le chef de l'État profite actuellement avec sa femme Brigitte de quelques jours de vacances à Marseille. Marseille où journalistes et photographes se sont donné rendez-vous pour tenter d'apercevoir le couple présidentiel et immortaliser le moment. Mais Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié l'attitude d'un photographe, visiblement trop curieux dimanche dernier. Il a donc décidé de porter plainte pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée. Selon l'Élysée, ce photographe se serait introduit dans la résidence privée où est logé le président. Le photographe livre ce soir sa version des faits à Sinamir. C'est un document RTL.
Je prends l'initiative d'aller parler à l'officier de sécurité et tout de suite, il m'envoie bouler. Il me dit qu'il va appeler les forces de l'ordre pour me faire coffrer 48 heures, alors que je n'ai pas fait une seule photo. J'allais juste prendre une information, demander un renseignement si c'était possible lors d'une sortie publique, comme tous les présidents auparavant, que ce soit sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande. Je me souviens très bien des photos de Monsieur Hollande avec sa compagne de l'époque, Valérie Trierweiler, quand il est allé serrer les mains sur les plages de Brégançon. C'est des photos comme ça qu'on aurait aimé faire. Quand je me suis présenté, je n'avais même pas mon appareil photo, je n'avais rien sur moi, tout était dans ma voiture. Puis là, il a appelé, il a dit « Vous bougez pas, vous restez là ». Les forces de l'ordre sont arrivées, m'ont embarqué, j'ai pris toutes mes affaires cellulaire qui était dans ma voiture, mon matériel photo. Je suis resté environ près de 6 heures en garde à vue. Ils ont regardé tout le contenu de mes cartes mémoire. Ils ont regardé le contenu de mon ordinateur. Bah, au final, au bout de 6 heures, ils sont venus me dire que j'étais libre, mais qu'il fallait que je parte de Marseille. Et je vous avoue que je suis quand même choqué et très surpris. Depuis le président Sarkozy, j'ai toujours travaillé sur les vacances des chefs d'État. Je n'ai jamais eu un tel traitement. Je trouve que c'est un peu spécial comme méthode.
Et une photo a quand même été diffusée cet après-midi sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, petite barbe naissante avec son maillot de l'OM, s'est fait prendre en photo aux côtés du joueur phocéen Grégory Sertic. Le président a assisté à l'entraînement du club au centre Robert-Louis-Dreyfus. Avant cela, le chef de l'État s'est entretenu avec le président turc Erdogan pour lui faire part de sa préoccupation au sujet du journaliste Lou Bureau, détenu depuis fin juillet. Les deux dirigeants doivent se reparler la semaine prochaine. Sécurité maximale à Lourdes ce 15 août, jour de l'Assomption pour les catholiques. Comme chaque année, des milliers de fidèles participent au traditionnel pèlerinage dans les Hautes-Pyrénées. Plus de 300 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés.
Une certitude au lendemain de l'attaque de Sept Sorts en Seine-et-Marne. L'homme qui a foncé sur une pizzeria avait consommé beaucoup de médicaments.
C'est lui qui l'a avoué ce matin aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Il a également confié avoir déjà tenté de se suicider avant le drame. Un drame qui a fait une victime, une adolescente de 13 ans et 13 blessés, dont 5 graves, dont une femme de 44 ans, ce soir, entre la vie et la mort. Guillaume Chies, bonsoir.
Bonsoir.
Le procureur adjoint de Meaux s'est donc exprimé il y a moins d'une heure maintenant au sujet de l'enquête.
Oui, il a notamment dressé le portrait de cet homme, 32 ans, célibataire, sans enfant, un vigile en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Une première audition très compliquée ce matin. L'homme tient des propos confus, incohérents. Il souffre d'un délire de persécution, selon Éric de Roger, le procureur adjoint de Meaux. Le chauffeur n'avait pas de litige avec le patron de la pizzeria. Il ne connaissait aucune de ses victimes. L'homme est pour le moment incapable d'expliquer son geste.
Quand on lui demande pourquoi avoir choisi cet acte-là dans cette pizzeria, il explique que c'était un lieu facile d'accès, sans protection. Il se décrit comme hors contrôle au moment des faits. Il est très confus quant au mobile.
Le chauffeur poursuit dans sa confusion et son délire de persécution. « Si je vais en prison, je serai en sécurité », a-t-il dit. Toute la question est maintenant de savoir s'il voulait sciemment tuer des personnes, s'il en avait conscience ou non au moment où il a foncé sur la pizzeria. Le chauffeur n'était pas suivi psychologiquement. De nombreuses investigations sont toujours en cours. Il doit également être examiné par un psychiatre avant d'être présenté demain à un juge d'instruction.
Merci pour ces dernières précisions, Guillaume Chies. Ils font régulièrement parler d'eux au gré de leur mobilisation. À Bure, dans la Meuse, les opposants au projet d'enfouissement de déchets radioactifs ne baissent pas les bras.
Ils ont manifesté cet après-midi sur le futur site. La construction ne devrait pas débuter avant 2022. Samuel Goldschmidt, vous êtes rendu sur place pour RTL. Malheureusement, le rassemblement ne s'est pas déroulé dans le calme. Il y a eu des heurts entre manifestants et forces de l'ordre.
Oui, des heurts violents pendant plus d'une heure dans le village de Saudron. Alors, si une partie du cortège manifestait contre le nucléaire, une colonne de 80 personnes était là pour casser et en découdre face aux gendarmes mobiles. Grenades lacrymogènes d'un côté, en face ce sont de gros pétards et surtout de nombreux cocktails Molotov qui explosent parfois dans les jambes des gendarmes. Le village est impraticable désormais, jonché de caillasses, barricadé avec les panneaux indicateurs arrachés des bas-côtés. Les habitants sont écœurés.
De Bure ou de l'André, à mon avis, n'ont pas grand-chose à faire, comme de Notre-Dame-des-Landes, comme de Sivas, comme de la ferme des Mille Vaches, comme de tant d'autres choses. On a déjà connu ça. Non, mais nous ne sommes pas chez nous. Nous avons eu des menaces. Nous allons mettre le feu dans vos fermes. Attendez, on est chez nous. Nous, on était là avant eux. Pour moi, ce sont des casseurs professionnels. Ça se voit, tout simplement.
La préfecture a relevé la présence de Black Blocs, certains venus d'Allemagne et d'Italie. Le village a retrouvé son calme à présent.
Samuel Goldschmidt dans la Meuse pour RTL. Le scandale des œufs au fipronil, 250 000 œufs ont été consommés en France depuis avril, mais pas que des œufs avec leurs coquilles, des œufs transformés aussi dans des gâteaux, des sandwichs. Le ministère de l'Agriculture va publier dans les prochains jours la liste des produits concernés. Les incendies en Corse, 130 hectares de maquis sont partis en fumée à Arbelara, à l'Otello de Talano et Sartène. D'importants moyens aériens et terrestres ont été mis en œuvre. Heureusement, le vent ne souffle que très peu ce mardi sur l'île de Beauté.
RTL Soir, 18h10.
Et dans un instant, direction Nice. Pas de feu d'artifice ce soir 15 août. La douleur de l'attentat du 14 juillet est trop forte.
18h11, RTL Soir, Florence Cohen et pour la suite du journal Charlotte Arrigoni.
Le 14 juillet dernier, Nice, encore meurtrie par l'attaque sur la promenade des Anglais, avait renoncé à son feu d'artifice.
Eh bien, pas de feu d'artifice non plus ce soir. C'est trop tôt, a jugé le maire Christian Estrosi. Mais à la place, pour ce 15 août, la ville organise des spectacles et des concerts, Kelly Vargin.
L'annulation de ce feu d'artifice surprend et déçoit même Christian, un Niçois.
Autant je peux comprendre qu'on ait annulé le feu d'artifice du 14 juillet parce qu'il y avait quand même un contexte extrêmement morose. Mais quant au 15 août, c'est une tradition qui est ancienne. S'il n'y a pas de feu d'artifice, je ne vois pas trop l'intérêt.
La ville souhaite malgré tout rendre cette soirée festive. De nombreuses animations sont proposées pour divertir le public. Scarlett Coury, venue avec sa harpe, compte bien faire danser la foule.
Je vais jouer Hit the Road Jack, du Bill Withers, du Yael Naïm. L'idée de ce soir, c'est justement de créer une vraie émotion aussi, mais cette fois-ci autour de la fête. Ce ne sera pas un feu d'artifice, c'est pas plus mal, mais ce sera un feu d'artifice artistique en tout cas.
L'artiste-graffeur Autumn est aussi impatient de commencer son show. Il espère apporter de la joie et redonner le sourire aux Niçois.
Il faut qu'il y ait encore et toujours de la place pour la joie de vivre, pour le bonheur, pour l'art, pour la fête, quoi. On est là pour ça, on est là pour communiquer et échanger.
Pour rapprocher les habitants, les touristes, les petits et les plus anciens, des terrains de pétanque ont aussi été installés en plein cœur de la ville.
Kelly Vargin, l'une des correspondantes de RTL sur la Côte d'Azur. Dramatique accident au Portugal. Une dizaine de personnes sont mortes, écrasées par la chute d'un arbre sur l'île de Madère. Un chêne vieux de 200 ans. Le drame a eu lieu lors d'une fête religieuse.
Quelles sont les meilleures universités dans le monde? Encore une fois, ce sont les États-Unis qui décrochent la palme.
C'est ce qui sort du très médiatique classement international de Shanghai, chargé d'établir le palmarès des 500 meilleures universités au monde. L'université d'Harvard arrive en tête devant Stanford. Quant aux universités françaises, Christophe Ponzio, ce n'est toujours pas très glorieux.
Effectivement, un seul 20 établissements tricolores se retrouvent dans ce classement. C'est deux de moins que l'an passé. Ainsi, la France se classe 6e mondiale, position stable, très loin derrière les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Allemagne. Mais si l'on regarde dans le détail, il y a quelques évolutions. Premier établissement français, l'université Pierre et Marie Curie, qui continue de perdre du terrain et abandonne une place. Spécialisée en sciences et médecine, elle se retrouve 40e, talonnée par l'université Paris-Sud, 41e, qui remonte de 5 rangs cette année. Enfin, dernière université bleu-blanc-rouge du top 100, l'école normale supérieure, qui gagne 18 places. Elle se positionne 69e à la 69e position. Bref, malgré les réformes, vous l'avez compris, réformes des universités, L'Hexagone ne brille toujours pas dans ce classement, même si la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, salue des progressions individuelles. Pour elle, la prise en compte des nouveaux établissements issus des regroupements améliorera la situation, car le problème de ce classement de Shanghai est toujours le même. Les universités françaises restent encore très éclatées, pas suffisamment autonomes, donc peu visibles. Un regroupement plus large entre elles leur permettrait d'avoir plus de poids, le nombre d'anciens étudiants récompensés par un prix Nobel, par exemple, ou le nombre de publications des chercheurs serait ainsi gonflé.
Merci Christophe Ponzio. Vous parliez justement de l'école normale supérieure. À 18h20, son directeur Marc Mézard sera l'invité de RTL Soir. Il nous dira justement s'il se satisfait de cette 69e place ou pas.
L'appel au secours du président de Sierra Leone. Mon pays a très rapidement besoin d'aide, a-t-il lancé à la communauté internationale. Après des pluies diluviennes, plus de 600 personnes sont mortes, emportées par des coulées de boue, des glissements de terrain ou encore des inondations. Par ailleurs, plus de 2000 personnes se retrouvent sans abri. L'Iran prévient, le pays pourrait quitter l'accord nucléaire signé avec les grandes puissances mondiales si les États-Unis continuent, je cite, leur politique de sanctions et de coercition. Conclu en 2015, ce programme prévoit que Téhéran limite son programme nucléaire à des usages civils en échange de la levée progressive des sanctions internationales. Donald Trump a prouvé qu'il n'était pas un bon partenaire, a déclaré le président Hassan Rouhani.
Bon, pardon de vous fâcher, mais ça commence à sentir sérieusement la fin des vacances. Hein. Les juilletistes sont rentrés il y a bien longtemps et c'est déjà la fin du week-end du 15 août.
Conséquence, bien sûr, du monde sur les routes. Illustration sur l'autoroute A13. Frédéric Veil, vous êtes pour RTL au péage de Beuzeville en Normandie. Et pas de pitié pour les automobilistes fautifs.
Oui, une vingtaine de gendarmes est présent depuis le début de l'après-midi sur ce point d'interception. Le contrôle aux jumelles laser se faisant 5 km en amont. Alors en cette fin de grand week-end, eh bien évidemment, on traque les comportements dangereux et les vitesses excessives.
Vous savez pour quel motif vous contrôle ?
Non.
En excès de vitesse, j'ai un collègue qui est positionné au niveau de la station Avia et vous enregistrez la vitesse de 160.
Le capitaine Philippe Gérard, commandant en second de l'escadron départemental.
Un jour comme aujourd'hui, il est important pour nous d'être présents. Premièrement, pour que des gens nous voient. Ça permet aux gens de regarder leur compteur un peu plus régulièrement et puis de rassurer toute la grande majorité qui roule normalement.
Malgré votre présence, on s'aperçoit que les vitesses restent encore excessives.
Et oui, on a encore des gens qui roulent au-delà de 170 km/h.
Les contrôles sur l'autoroute A13 vont encore se poursuivre toute la soirée. À l'heure où je vous parle, eh bien, déjà plusieurs amendes pour excès de vitesse et quelques retraits de permis immédiats ont été signifiés.
Le reportage pour RTL de Frédéric Veil, notre correspondant en Normandie. Le foot, c'est le début ce soir des barrages allés de la Ligue des Champions. Pas de club français en lice, mais demain en revanche, Nice sera sur la pelouse des Italiens de Naples. Ce sera à 20h45.
Vous êtes prête pour suivre ce match, Charlotte ?
Mais je l'attends avec même impatience.
Très bien, c'est ce que je voulais vérifier. D'ici là, vous reviendrez à 18h30 pour le rappel des titres sur RTL.
RTL Soir, 18h16.
Et dans un instant donc, l'invité de RTL Soir, Marc Mézard, directeur de l'école normale supérieure Normal Sup, pour nous parler justement de ce classement des universités de Shanghai qui la met à la 69e place.